This is CKCU Lutheran News. I am Hans-Georg Ruprecht, bringing you Parole d'Afrique, entretien, reportage et poésie avec notre correspondant littéraire, Antoine Loulou Garcia, à Paris.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir à la librairie Galerie Congo à Paris un dandy de grand chemin, membre de l'OLP, c'est-à-dire l'Organisation de Libération de la Parole, et fondateur du collectif On a slamé sur la Lune. Mieux connu par certains sous son nom de scène de Capitaine Alexandre, nous accueillons avec un grand bonheur Marc-Alexandre Ohobambé, poète camerounais qui vient de publier aux éditions de La Cheminante un recueil intitulé Le Chant des Possibles. Marc-Alexandre, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour un moment de partage et de poésie totale. Poésie totale, car vous ne faites pas qu'écrire. Vous slamez les poèmes que vous composez en les accompagnant de musique dans une douce improvisation qui invite au voyage. Vous en offrirez un très bel exemple tout à l'heure. J'ai eu la chance de vous entendre réciter vos poèmes à plusieurs reprises. Il s'agit de véritables performances. On peut parler avec vous d'un art total. Et ce au point que je dois vous poser une première question. Êtes-vous un poète, un slameur ou simplement un homme qui touche le cœur des gens qui l'écoutent ?
Ah, c'est une première question douce et brutale à la fois, mais pour reprendre les mots d'un écrivain que j'aime beaucoup, je suis et j'aspire à être un homme avant d'être un homme de lettres. Donc je crois que j'ai répondu à la question. J'aspire à être un homme. Et dans le fait d'être homme, il y a le fait justement de parler à d'autres hommes. Mm-hmm. Et si possible de parler à leur cœur, à leur tête aussi de temps en temps, mais surtout de parler à leur cœur. Parce que je pense que par l'émotion, on arrive à faire passer ce message nécessaire, urgent, vital, qui tend à nous rappeler qu'on appartient à la même humanité en fait. Voilà. Donc je pense que ça passe par le cœur souvent plus que par la tête.
Donc vous êtes vraiment dans une poétique qui est une esthétique.
Oui, une poétique qui est une esthétique et peut-être plus encore une éthique parce que l'ambition elle est là, effectivement, c'est de faire rimer esthétique avec éthique toujours. Et dans le mot éthique, moi j'entends ça, j'entends partage, j'entends égalité, j'entends singulier et universel à la fois, j'entends humanité en fait, quand j'entends ce mot-là, éthique.
Alors, justement, là, vous parlez d'éthique. Il y a un jeu de mots que vous faites en disant que la poétique doit être une peau éthique. Alors, c'est une chose que j'ai trouvée déjà très pertinente et qui m'a rappelé une chose que les disciples de l'historien François Chappé ont baptisé la polétique. Alors, la polétique, c'est une manière de faire de la politique dans le but d'améliorer durablement la société en donnant à chacun une véritable responsabilité citoyenne. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une notion de société où chacun s'implique. Marc-Alexandre, pensez-vous que si nous avions plus de poètes parmi nos dirigeants, notre société serait plus juste et pourquoi pas plus belle ?
La réponse, oui, la réponse est effectivement oui, mais je pense que, et il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, j'ai assisté à un débat entre Christiane Taubira et Edwy Plenel et sous le regard d'Edouard Glissant, et on était en plein dedans, poésie politique, revenir au sens grec du mot politique, mm-hmm. c'est-à-dire d'organisation du vivre ensemble dans la cité, et dans cette organisation-là, on a chacun notre part à prendre, artistes, enseignants, enfin tous les citoyens, tous autant que nous sommes, on a notre part à prendre, on a notre responsabilité dans ce vivre ensemble-là collectif. Et effectivement, la poésie permet de rappeler ça aussi, parce que les poètes sont finalement ceux qui réenchantent le monde, sont ceux qui réinventent, parfois même qui réinventent des systèmes d'organisation, nos systèmes d'organisation. Et je trouve qu'effectivement, un peu de poésie dans ce monde politique qui tend à devenir politicien, oui, ça ferait pas de mal. Ça ferait vraiment pas de mal.
Alors effectivement, vous mentionniez le caractère, disons, étymologique de la politique avec la politiké grecque. Et ce que vous mentionniez en filigrane aussi, à travers la poésie et l'implication qu'elle a dans la société, c'est également l'aspect étymologique de poiesis, qui est une fabrication.
Fabrication.
Je précise à nos auditeurs que vous mentionniez Christiane Taubira, notre ministre de la Justice. Vous lui avez récité un très beau poème. C'est une vidéo qu'on peut trouver sur YouTube et j'invite véritablement tous nos auditeurs à aller la voir parce que c'est un très très beau moment de partage qui montre effectivement ce point de convergence entre poésie et politique. Vous parliez également d'éducation et vous êtes investi dans la cité en tant que poète, tout d'abord parce que vous parlez aux gens, mais vous parlez aussi aux élèves. Et ça, c'est une chose assez importante parce que l'éducation, tout le monde passe par là, donc c'est la matrice véritable de notre société. Que pensez-vous pouvoir apporter aux élèves ?
Qu'est-ce que je pense pouvoir apporter ? Du savoir-être. Plus que du savoir-faire et de la technique, d'abord du savoir-être. Puis peut-être juste transmettre une injonction que moi j'ai reçue de mon père, c'est croyez en vous avant de croire en quoi que ce soit. Voilà, on a tous voix au chapitre, tous droit à la parole. Et prendre la parole, c'est être au monde en fait. Ce qu'on dit à ces jeunes gens, parce que je ne le fais pas tout seul, on est plusieurs dans mon collectif à intervenir dans les collèges, les lycées, et même à la fac. Ce qu'on dit à ces jeunes gens, c'est de croire en eux et surtout de fabriquer leurs propres rêves, en fait. De les construire, de se battre pour ça et de ne laisser personne, même pas un conseiller d'orientation, leur dire qu'ils n'ont pas droit à la parole.
Est-ce que en cela, parce que vous dites aux élèves finalement de croire en eux avant de croire en qui que ce soit et quoi que ce soit d'autre, est-ce que c'est un synonyme finalement de ni dieu ni maître, des anarchistes ?
Non, je ne pense pas. C'est surtout prenez-vous en main. Il y a personne ni aucun système ni il y a pas d'homme providentiel et ce que vous voulez, il y a personne d'autre que vous pour aller le chercher. Après, on peut être aidé, on peut se laisser guider. Mais ça vient toujours de soi et de ce chemin sur lequel on est. On avance parce qu'on a décidé d'avancer. Et après, bien sûr, il faut garder les bras ouverts, le cœur ouvert, s'enrichir, se laisser guider, comme je viens de le dire. Mais il faut surtout que ça vienne de nous-mêmes, en fait. Et c'est ce que moi, j'essaie de transmettre aux jeunes gens avec lesquels j'interagis de temps en temps. Et ce qui m'amène d'ailleurs à parce qu'on parlait de poésie tout à l'heure, Giono disait que le poète était un professeur d'espérance. Voilà, j'ai jamais eu de mal avec cette définition-là. Quand je me dis poète, je me dis professeur d'espérance.
Alors, vous disiez devenir soi-même pour s'ouvrir aux autres. Vous dites dans l'un de vos poèmes. Alors, je précise aux auditeurs que vos poèmes, bien évidemment, on peut les retrouver dans votre livre Le Champ des Possibles que vous avez publié tout récemment à La Cheminante. On peut en trouver également certains sur le site d'Africulture. Et donc, tous les auditeurs, voilà, n'hésitez pas à aller les lire. Ce sont vraiment de très beaux moments où aller les entendre également. Et dans l'un de vos poèmes, vous dites « Pourquoi se construire contre l'autre plutôt qu'avec ?» Ça rejoint véritablement notre problématique. Et en lisant ça, ça m'a rappelé un vers de Saint-Gore, qui dans ses épîtres à la princesse disait « Comment vivre sinon dans l'autre au fil de l'autre ?» Alors chez Saint-Gore, il s'agit quasiment d'une définition de l'amour, d'un amour, pourrait-on dire, humaniste. Pensez-vous que la poésie puisse relier les hommes, comme finalement vous essayez de le mettre en place, et que la parole poétique puisse être en soi un humanisme ?
Oui, ça je le pense définitivement. Et la poésie, c'est pas qu'elle peut, elle lie les hommes. Elle lit les hommes. La poésie, c'est le chant du monde. Et à mon sens, et pour avoir lu un peu, ce que j'aime dans la poésie, c'est ça, justement. C'est qu'elle transporte et colporte les rêves de citoyens, de régions du monde différentes. Et finalement, on se rend compte qu'on parle la même langue. Quand on lit Mahmoud Darwish, on lit Kateb Yassine, on lit Neruda, on parle de Saint-Gore ou de Césaire, de quelqu'un comme Franck Etienne ou d'autres poètes qui chantent le monde, il y a ça en commun. Il y a ça en commun, cette envie de transformer ce monde, cette nécessité de porter cette parole poétique, constructive, créatrice de liens et d'utopie contemporaine. Et oui, donc la poésie lie les hommes, même quand ils ne le savent pas. On est lié par des poèmes, on est lié par des mots, on est lié par des phrases étincelantes, éclatantes, on est lié par la beauté, en fait. Voilà, et la poésie, c'est rien d'autre que ça, c'est la beauté, mais une beauté juste, c'est-à-dire débarrassée des inégalités, des injustices, et la poésie lit les hommes.
Alors, ce qui est très amusant, c'est que vous citez toujours le monde, vous citez des poètes de pays différents. Vous-même, vous êtes un poète camerounais, c'est français, ça. Ou du monde ?
Je suis poète camerounais du monde. Voilà, j'aime bien cette définition-là. important de rappeler que je suis camerounais parce que je pense écrire le français dans ma langue maternelle. Je pense, hein. Et les images qui me viennent quand j'écris, même quand j'écris en français, sont des images qui me viennent aussi dans ma langue maternelle. C'est pour ça que j'ai l'impression parfois d'écrire le français dans une langue étrangère, mais, mais c'est assez amusant parce qu'il y a un dédoublement et ce qui est important pour moi, qui fait ma singularité peut-être aussi, mais j'aime assez cette idée-là d'être en déséquilibre permanent entre ces deux langues, entre ces deux pays qui m'ont nourri et qui me nourrissent encore, et en même temps qui m'ont ouvert au monde, parce que je vais à la rencontre du monde par les mots de la langue française. Mmh. Une langue française elle-même habitée par ma langue maternelle, Douala. Donc voilà, tout ça est imbriqué et s'imbrique assez naturellement. Et je trouve ça, finalement, je trouve que c'est une belle définition des identités multiples dans lesquelles nous sommes nous, tous aujourd'hui.
Et d'autant que ça enrichit la langue française à travers les images que vous y importez, à travers les tonalités que vous y mettez, à travers même la façon de réciter la poésie que vous avez. Votre livre s'intitule « Le chant des possibles », avec ce jeu de mots, naturellement, sur le fait de chanter. Mais il y a une très belle phrase qui vient du poète grec Pindare, où il explique à son âme, il l'invite à ne pas explorer l'infini, mais déjà le chant du possible, ce qui est déjà en soi un infini immense. Et Pindare était un poète qui a fait sa renommée sur les Jeux Olympiques et les autres jeux qui existaient dans la Grèce antique. Or, vous avez fait des poèmes, qui sont très beaux d'ailleurs, sur la Coupe du Monde du Brésil. Alors...
Je savais que j'étais un peu grec, quelque part, d'ailleurs.
Est-ce que vous souhaitez être, est-ce que vous êtes quelque part, une sorte de Pindare africain des temps modernes?
Bah déjà, merci parce que je m'enrichis chaque jour. Je ne connaissais pas Pindare et cette référence... au JO, enfin poésie et sport, et donc je vais me renseigner. Et donc oui, non, mais je pense qu'on peut vivre plusieurs vies et qu'on a plusieurs passions dans la vie, et moi j'aime bien mélanger mes passions. D'ailleurs c'est ce qui fait que je ne fais pas qu'écrire, que je dis aussi, que je chante aussi, parce que tout ça, ça me fait vibrer, et le foot me fait vibrer aussi. Donc j'aime beaucoup dire cette phrase-là quelquefois dans des cercles un peu intellectuels. On me regarde toujours un peu comme ça, genre, t'as parlé de football, ce sport de beauf. Oui, ce sport de beauf, pour vous, mais pour moi, c'est une religion. Je viens d'un pays où le foot est une religion. Et pour moi, c'est de la poésie aussi, en mouvement. D'ailleurs, en atelier d'écriture, j'ai une petite anecdote. Il n'y a pas très longtemps, je demandais à des jeunes de 4e de me donner des images poétiques. Et l'un d'eux m'a dit le but de Pastore contre Chelsea. Mmh. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai trouvé ça magnifique. Il a dit comme une boutade, mais il n'imaginait pas à quel point il était dans le vrai. Parce qu'il y avait la beauté du geste. Et on est dans la beauté.
Il y a effectivement cette esthétique qui est commune, que ce soit dans le geste, dans le tempo même, hein, finalement, du mouvement, de l'action, de la feinte de corps. On peut faire un vrai
un rythme,
parallèle.
C'est vrai.
Ouais, il y a ce rythme, effectivement. Et voilà, est-ce que vous pensez un petit peu développer cette fibre poético-sportive, ou est-ce que voilà, c'était vraiment quelque chose de très, très ponctuel?
Disons que ça a été, quand j'ai proposé à Africulture ce délire d'anticipation il y a quelques mois, et ça a bien plu à beaucoup de lecteurs d'ailleurs, qui étaient étonnés que le foot arrive sur Africulture, qui est plutôt reconnu comme un site universitaire très, très sérieux, presque trop rigide même parfois, avec que des publications d'universitaires. Bon, là on a fait rentrer la poésie a toujours existé, mais ça allait, et c'était de la poésie, et là le sport, le foot en plus. Et finalement, beaucoup de gens se sont pris au jeu, c'est le cas de le dire. Donc je pense que je vais continuer. Je suis en train d'imaginer un recueil de nouvelles sportives, donc avec la poésie comme fil conducteur de tout ça, mais un recueil de nouvelles, enfin quand je dis sportives, je veux dire footballistiques, on va dire ça comme ça.
Donc là, c'est le champ du possible qui s'élargit, puisqu'on passe de la poésie à la nouvelle.
En fait, on revient à la nouvelle. J'ai écrit déjà beaucoup de nouvelles et de théâtre aussi. Donc la poésie a toujours été là, mais j'ai commencé par écrire du théâtre et des nouvelles.
Vous comptez y revenir au théâtre, justement, ou... Parce que finalement, vous faites déjà du théâtre, hein, en récitant vos poèmes avec la musique, etc. Est-ce que vraiment le genre théâtral à proprement parler, vous comptez y revenir?
Ben, j'espère. J'ai eu la chance de pouvoir jouer dans une pièce à Douala au mois de décembre dernier. J'espère. Enfin, je suis à la disposition de metteurs en scène, pour des projets qui me parlent. Et puis je mets en scène mon propre livre aussi, puisque finalement le Champ des Possibles est un projet d'art total, musical, poétique, mais c'est aussi un projet de spectacle vivant tout le temps. Et il y a une forme théâtrale. Je vais mettre en scène le livre, le présenter sous la forme d'un monologue dans une terre dévastée, et puis un personnage qui raconte, qui se raconte et qui se souvient d'avant sa mort.
Marc-Alexandre Obambé, en préparant cette interview, je vous avais demandé de choisir un poème pour que vous le fassiez partager à nos auditeurs. On va vous écouter en compagnie de Maxilla et de sa flûte, si connue. Marc-Alexandre, place à la poésie.
D'île en île, de ville en ville, de vie en vie. Je vais, je vrille, je vogue, je vole, au secours de mes rêves. Habité, gouverné par ma quête et obsédé par l'idée d'être ou ne pas être, au rendez-vous de la conquête. J'en ai vu des pays, des monts et des merveilles, mais aussi l'inhumain dans l'humain, l'homme, prédateur, loup pour l'homme lui-même. J'en ai tourné des pages de notre histoire, certaines sordides et d'autres éclatantes. Imprévisible de beauté. Je me suis détesté, cherché, semé longtemps avant de me trouver, d'apprendre à m'aimer, enfin. M'aimer, c'est aimer comme nous devrions aimer cet autre là-bas, différent et ressemblant à la fois. M'aimer, c'est aimer, et t'aimer, j'ose le dire, c'est m'aimer aussi comme nous devrions aimer cet autre. Là-bas, encore plus loin, et en même temps, si près, distant et proche à la fois. J'en ai mis du temps avant de comprendre que je nous aimais. Mal. D'île en île. De ville en ville, de vie en vie, je vais, je vrille, je vogue, je vole. Au secours de mes rêves, habité, gouverné par ma quête, obsédé par l'idée que la vie a un sens et que je trouverai le secret de ma destinée seulement si j'arrive, entier ou presque, au rendez-vous de la conquête de ma liberté. Dans un frisson, je brûle mon masque et redeviens Junju, Jin et Loa de feu. J'ai besoin d'art comme d'autres ont besoin d'argent. Besoin d'art comme d'autres ont besoin d'air pur. Besoin d'art comme d'autres ont besoin d'air nouvelle ou d'air libre. De ville en ville. envie. Je vais.
Marc-Alexandre Obambé, merci beaucoup pour ce moment de poésie totale que nos auditeurs auront, j'en suis sûr, apprécié à sa juste valeur. Je rappelle que vous avez publié tout récemment Le Champ des Possibles, aux éditions de La Cheminante, un recueil empli de vie et d'envie, un recueil que je recommande vivement à tous nos auditeurs parce que c'est un recueil à lire et surtout à relire. Je remercie la librairie Galerie Congo à Paris de nous avoir accueillis pour cet entretien. Merci également au label Livre et auteur du bassin du Congo pour l'organisation. Et je rappelle enfin que le marché de la poésie au mois de juin à Paris s'organisera autour du bassin du Congo. Marc-Alexandre, merci à vous.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Merci.
À très bientôt.
Et à très bientôt sur nos ondes.
Pour CKCU Literary News, Antonio Le Garcia à Paris.
De la radio communautaire de Carleton University à Ottawa, c'était Parole d'Afrique, une émission de CKCU Literary News. Comme toutes nos émissions littéraires diffusées en trois langues, celle-ci vous est aussi offerte par Balado Diffusion Podcast, ainsi que sur notre liste lecture automatique CKCU On Demand, telle qu'indiquée dans Google. Nous sommes aussi sur Facebook et Twitter. Au plaisir de vous lire et merci.